Bonjour à tous. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ce moment. Nous partageons ta parole, Seigneur, que ce soit ton esprit, Seigneur, qui nous convainc, Seigneur, qui nous parle. Merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et c'est par cette parole que nous voulons être sanctifiés. Dans le nom de Yeshua le Messie. Amen. Je voulais tout d'abord vous souhaiter un joyeux Noël. Parce que cette semaine, vous savez que c'était la fête, enfin vous savez pas, que c'était la fête des cabanes, la fête de Soukhot. Et que Jésus, Yeshua, est né. Il y a de fortes chances, alors bien sûr on n'a pas de preuves sur la date de sa naissance, mais il y a des signes qui disaient que c'est pendant cette fête que Jésus serait né. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël au mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que c'est la fête du Messie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge à Bethléem. Et vous savez que Bethléem est à 8 km de Jérusalem et que la fête des cabanes est une des grandes fêtes solennelles. On a pensé que c'était dû au recensement. Mais le recensement, finalement, il ne pouvait que se faire quand ? Qu'en automne, parce que si les Romains avaient fait ça en avril ou en cours d'année, il y aurait eu une émeute, parce qu'il y avait les récoltes à faire, il y avait la semaille à faire, il y avait plein de choses à faire, c'est un pays agricole. Et le seul endroit, moment où on peut faire vraiment un recensement pour déplacer les gens, c'est en automne ou en hiver. Voilà, ça c'est un aparté. Aujourd'hui, c'est Simrat Torah. C'est la fin de la fête. Simrat Torah, ça veut dire quoi ? La joie de la Torah, la joie de la parole, la joie des commandements. Vous savez que les Juifs lisent la Torah une fois par an, semaine après semaine. Ils la découpent en 52 passages. Et tous les samedis, ils lisent un morceau. Et ça se finit aujourd'hui. Où ils ont fini la Torah. Alors la Torah, c'est quoi ? C'est le Pentateuque. C'est quoi le Pentateuque ? C'est les 5 premiers livres de la Bible que vous avez dans vos Bibles. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est tout. Donc ils ont partagé ces 5 livres en 52 morceaux. Et toutes les semaines, ils appellent ça une paracha, ils lisent un morceau et ils expliquent le morceau. Ça veut dire que quelqu'un qui est juif depuis sa naissance... Moi, par exemple, si j'avais été juif depuis ma naissance, j'aurais lu 59 fois la Torah. Enfin, au début, c'est un peu plus, moins d'un an, c'est difficile. Mais à partir de 7 ans, 8 ans, on aurait lu la Bible. Donc, ils sont bien ancrés dans les Écritures. Et donc, je continue. La joie de la Torah, la joie de l'Écriture, c'est quelque chose que l'on devrait tous avoir, nous, croyants. Et on va commencer par le psaume 119, au verset 105. Vous la connaissez tous. 119, psaume 119, verset 105. C'est le plus grand psaume de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et on va lire, toujours le psaume 119 au verset 130, c'est la page d'après. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire, elle donne une intelligence au simple. Première question. Avez-vous la lampe de poche avec vous ? Je ne vais pas parler de la lampe à huile. Lisez-vous la Bible ? Lisez-vous la parole de Dieu ? Alors quand je dis lire, c'est pas spécialement lire. Je vous ai déjà dit que c'était pas seulement lire. Mais c'était aussi comprendre. comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu? Est-ce que vous avez soif? On va être interactif aujourd'hui, on va faire un peu comme dans les synagogues. S'il y a quelqu'un qui a une question, il peut lever la main. Si quelqu'un ne comprend pas, il peut lever la main et me dire, je n'ai pas compris. Ce n'est pas quelqu'un qui est ici, qui est sachant, et les autres là-bas qui sont assis, qui sont passifs. La parole de Dieu est quelque chose d'actif et une interaction entre l'enseignant et les personnes qui sont enseignées. Vous savez que dans la parole de Dieu, il a dit que nul n'enseignera son frère, car tous me connaîtront. Donc la parole de Dieu, est-ce qu'elle vous éclaire proprement dans votre vie? Est-ce qu'elle vous éclaire? Est-ce que vous, c'est vraiment une lumière sur votre sentier? Ou est-ce que c'est un bouquin que vous ouvrez que les dimanches matins? Alors on va lire dans Éphésiens chapitre 1, on va retourner dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 1, au verset 17. Au verset 16, même, on va le lire. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle espérance s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers vous, envers nous qui croyons selon l'action de sa souveraine, de sa force. Il l'a mise en action dans le Messie en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, en tous. Paul priait qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il nous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Qu'il illumine. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais un livre, puisque c'est un livre aussi, sans esprit de révélation, il faut les deux. Je pourrais vous décortiquer tous les textes hébreux. Sans le Saint-Esprit, c'est une lettre morte. Enfin, c'est joli, hein, c'est folklorique. Mais sans l'esprit de révélation qui va avec la parole, c'est une lettre morte. C'est pour ça que quand je vous dis, lisez-vous la Bible, c'est pas lire, comme je vous avais dit, un bouquin. C'est à chaque fois que vous lisez la Bible, avant d'ouvrir la Bible, c'est demander un esprit de révélation, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On peut lire dans Romains 10, au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je pourrais dire, c'est une loi spirituelle. La foi vient de ce qu'on entend du moment qu'elle vient de la parole de Dieu. Maintenant, je pourrais dire autre chose. La peur vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la télévision. C'est une loi spirituelle. Où est votre source? Dans quelle source vous allez puiser? Dans la parole de Dieu qui vous donne la foi par son esprit de révélation ou par ce que vous entendez autour de vous, aussi bien sur Facebook, sur la BFM TV, sur tout ce que vous pouvez entendre. Et là, ce n'est plus du tout la foi. Là, c'est la peur. C'est la crainte. Ils sont payés pour vous faire peur, de toute façon, hein, pour vous vendre des pubs. Donc, où mettez-vous votre foi? De quelle lumière voulez-vous avoir? Dans Acte 16, on va lire un exemple. Acte 16, au verset 11. Embarqués à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Or, le jour du Shabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc là, ils sont en Grèce, hein, en Macédoine. Et le jour du Shabbat, ils sont allés sortis de la ville pour aller vers une rivière parce qu'il y avait un lieu de prière sûrement pour les Juifs. Il n'y avait pas suffisamment peut-être de personnes du peuple juif pour avoir une synagogue. Donc ils se réunissaient au bord d'une rivière. Et nous nous sommes assis. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y pressa très instamment. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vécu ça un jour, vous? Qui a vécu ça? Vous pouvez lever la main. C'est tout. Qu'un jour, quelqu'un a prêché, vous a parlé, et vous a ouvert le cœur. Ouvert le cœur, c'est tout d'un coup, pouf, je comprends. Oui, j'ai un peu peur là, quand je vois qu'il y a trop peu de... Qui connaît Jésus comme son sauveur et Seigneur? Vous levez la main. Ah. J'ai eu peur. Je parle à des chrétiens? Bon, c'est bon. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Vous savez ce que c'est que la foi? Parce que c'est vrai qu'on utilise des mots qui viennent généralement du grec, qui sont un peu pompeux, qui sont un peu abstraits. C'est quoi la foi? Il y a la définition. La foi, c'est justement avoir le cœur vivement touché, et de quelque chose qui était abstrait, c'est devenu une réalité. C'est-à-dire, moi, je vous ai déjà expliqué mon témoignage. Hein, quand j'étais ado, j'avais perdu la foi. Quand j'étais petit, je croyais en Dieu. Et bon, l'adolescence est généralement une période assez difficile, n'est-ce pas ? Et pour moi, Dieu n'existait pas, quoi. C'est-à-dire, il était semblable au Père Noël, puisque je vous ai souhaité un joyeux Noël. Ben, le Père Noël, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, c'était un truc, une invention pour Jésus et tout ça, c'était une invention pour les enfants. Les belles histoires, les rois mages, les machins. Mais j'y croyais plus. J'espérais, mais j'y croyais plus. Et un jour, bon, comme ma vie était en la photographie de mon état de cœur, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, si tu existes, on ne sait pas. S'il y a quelqu'un là-haut, il y a quelqu'un, donne-moi la foi. Petite prière toute simple. Donne-moi que j'ai le cœur vivement touché pour que je n'ai plus aucun doute. Alors là, je vous dirai franchement, je vais pas faire de cinéma. Je me suis couché. J'ai dormi. Je n'ai pas vu le Seigneur arriver dans ma chambre avec une grande lumière. Je n'ai pas vu un ange venir me toucher en disant « Lève-toi et marche ». Je n'ai rien vu du tout. Par contre, le matin, quand je me suis réveillé, autant le soir, quand je me suis couché, je me sentais bien seul sur cette terre. Autant le matin, quand je me suis réveillé, j'avais la conviction que Dieu existait. J'ai aucun souvenir, hein. Je ne sais pas ce que j'ai rêvé, j'ai rien rêvé, enfin je ne me souviens pas, tout au moins, rien du tout. Mais la foi, j'ai eu le cœur vivement touché, je ne sais pas par quoi, le cœur vivement touché. Et à partir de là, une soif est née pour rechercher le Seigneur. Moi qui ne le cherchais plus, une soif est née pour le rechercher. Et il s'est laissé trouver. Qu'est-ce que la foi ? Hébreux 11, on va le lire. Dans Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est exactement ce que je viens de vous dire. J'espérais que Dieu existe, mais j'y étais vraiment pas sûr. Le matin, quand je me suivais, j'avais l'assurance qu'elle existait, que Dieu existait. Et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Est-ce que vous avez vu Dieu ? Moi, non, je ne l'ai pas vu. C'est pareil pour tout le reste. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a rendu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors après, il y a tout un exemple des héros de la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti, construit une arche. Par la foi qu'Abraham sortit de son pays pour aller à un pays où il ne connaissait pas. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Voilà, vous pouvez le lire, c'est dans Hébreux 11. Mais il y a une chose qu'on a oubliée dans ce passage-là. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. C'est bien. Noé, qu'est-ce qu'il a fait par la foi? Il s'est construit un bateau de 50 mètres de long et de 30 mètres de large. De, je ne sais plus combien de large, 15 mètres de large. Vous imaginez les travaux là? C'est à peu près de la taille de l'église. Peut-être même un peu plus. En bois, à trois. Est-ce que ça ne s'appelle pas une œuvre, ça? C'est par la foi qu'Abraham quitta son pays, son père, la maison de son père. Demain, je vous dis, bah tiens, demain, tu quittes la région, tu vends tout et tu pars vers un pays que je te montrerai. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle la foi? Ou ça s'appelle une œuvre? La foi, c'est de croire que la personne qui t'appelle va te pourvoir à tous tes besoins. À un moment, il dit que c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac, son fils unique, qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Par la foi, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il était prêt à aller jusqu'au bout pour sacrifier Isaac. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la foi? Ou ça s'appelle une œuvre? C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Vous imaginez, prince d'Égypte? Tu renonces à tous tes titres de prince d'Égypte. Il aurait pu avoir une super vie, le Moïse. Il a préféré retourner avec les Hébreux et galérer avec eux pendant 40 ans dans le désert. Ça s'appelle comment, ça? La foi? Ou une œuvre aussi? C'est par la foi, mais la foi doit engendrer une œuvre. On peut le lire dans Jacques, au chapitre 2, au verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Point d'interrogation. Ah mince. Ah mince, mince, mince. On m'a toujours dit que c'était par la foi qu'on était sauvés. Pourquoi il pose la question? Cette foi peut... Ben oui, bien sûr qu'elle peut le sauver. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps », à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres ». Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je montrerai ma foi. Tu vois qu'il y a un seul, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi que s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par ses œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous, les protestants, on a un handicap. On a quelqu'un qui a dit à une époque, la foi seulement. Fide, soli fide. Seule la foi. Si vous faites seul la foi, ce n'est pas suffisant. C'est seule la foi qui entraîne forcément des œuvres. Quand je dis des œuvres, ce n'est pas des bonnes actions, hein, ce n'est pas les trucs de scout. C'est vraiment votre foi ne doit pas, si elle est réelle, votre foi, elle doit produire du fruit. Et du fruit, des fruits de l'esprit, de fruits venant de Dieu. C'est pas, bon, maintenant, allez, ça y est, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est pas ça. C'est l'œuvre qui découle. Et la première des œuvres qui découle, c'est déjà un changement intérieur, une nouvelle naissance. Une conviction de péché. Une conviction de péché, qu'est-ce que c'est qu'une conviction de péché? C'est tout d'un coup de se sentir, par le Saint-Esprit, hein, bien sûr, de se sentir crade, sale. Quelque chose qui, avant, ça ne vous gênait pas, tout d'un coup, tu es bloqué en disant « Non, je ne peux pas, je ne peux plus. » Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il y a aussi la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La conviction de péché conduit à la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Vous savez ou quelqu'un qui peut pas le pasteur, hein, mais ouh. Comment? Nouvelle naissance, oui. Mais une repentance, c'est quoi? Un changement de mentalité. Un changement de... Un renouvellement des pensées. Quelque chose que j'aimais faire, je n'aime plus. Je déteste. Je regarde Jean 16, ce que j'avais marqué. Dans Jean 16, au verset 7, il est marqué « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il m'aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il me prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. L'esprit de vérité. La repentance va avec le péché. Alors les termes grecs, ils sont très simples. Hein. Péché, bon, on peut dire rater sa cible, mais péché, c'est simplement, il y a une barrière ici, j'enjambe la barrière et je vais de l'autre côté. Ou il y a une route, je traverse la route, non pas pour trouver du travail, mais voilà, j'ai péché. Je devais être du côté gauche de la route, je me suis retrouvé du côté droit. J'ai traversé. Traversé quoi? La limite. La repentance, c'est quoi? J'ai traversé, je reviens. Je fais demi-tour et je reviens. C'est simple. Vous êtes perdu, vous savez, qu'est-ce que vous faites quand vous vous perdez dans la forêt? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Non, il n'y a que moi que ça arrive. Vous revenez sur vos pas pour essayer de retrouver un repère. Tiens là, cet arbre-là avec cette forme-là, oui, ça y est. C'est... Voilà. Mais je fais, quand vous êtes perdu, normalement, vous faites demi-tour. Bon, il y en a quelques-uns qui veulent continuer jusqu'à la nuit, aller plus loin. Généralement, ça finit pas très bien, quoi. Ça finit par une nuit blanche dans la forêt. Mais si vous faites demi-tour, vous revenez sur vos pas, vous revenir, retraverser. Alors là, c'est pareil. Certains ont dit, bon, on peut pécher, on peut se repentir, on peut pécher, on peut se repentir, on peut se pécher, on peut se repentir. On peut. Là où la grâce a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ouais. Vous savez qu'une repentance, alors là je vais reparler encore en hébreu, teshuva c'est la repentance, mais la repentance doit être accompagnée de quelque chose. Et ça, les chrétiens, ils n'aiment pas beaucoup. La réparation. Jésus, c'est ce qu'il a fait, je vous ai déjà prêché, quand il a été 40 jours dans le désert, c'était pas pour écrire ça dans les évangiles que ça faisait beau. Jésus faisait la réparation des 40 ans dans le désert du peuple d'Israël. 40 ans où le peuple d'Israël n'a pas cessé de quoi faire, de demander du pain. Il a eu la manne, de l'eau aussi, mais là, c'était pas dans le... de tenter Dieu et d'être tenté d'adorer un autre Dieu que Dieu. C'est sur ces trois thèmes que Satan a tenté Jésus. Si tu as faim, donne à ses pains, ses pierres de se transformer en pain. Après, il lui dit, bah, saute du haut du temple. Il y a des anges qui vont venir. Et là, Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et après, il dit, bah, voilà, tous les royaumes sont à moi, adore-moi. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul. Jésus a fait réparation. Là où Israël, le peuple, avait péché, le Messie a réparé. Vous voulez un exemple de réparation? On peut lire dans Jean 19. Non, dans Luc 19, pardon. Luc 19. Je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé, c'est là. C'est au début. Jésus traversa, entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmurèrent et disaient, « Mais il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait quelque tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans notre christianisme moderne, Zachée, il aurait dit, bon Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés passés. Merci pour ta richesse. Merci parce que tu bénis ton enfant. Est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est pas le Seigneur qui lui a dit, rends ce que tu as volé. Un péager, vous savez ce que c'était un péager? C'était quelqu'un qui, à l'entrée de la ville, qui prenait les impôts. Ça, c'est pour le temple. Ça, c'est pour les Sadducéens. Ça, c'est pour Rome. Dans d'autres époques, on aurait appelé ça un collabo. Donc, vous êtes inutile de vous dire qu'ils étaient aimés. Déjà, pour Rome, une puissance étrangère. Et puis, j'ai oublié de vous dire, et puis ça, c'est pour moi. Parce que c'était des voleurs aussi. Puisqu'il le dit, hein, je rendrai tout ce que j'ai volé. Je crois. Hein, Si j'ai fait tort à quelque chose, je rendrai le quart de. Mais s'il était très riche, cet homme, à Jéricho, c'est pas une grande ville. Hein. Jéricho, c'était. Il n'avait pas de grande terre agricole puisqu'il était péager, donc il ne travaillait pas. C'était pas un propriétaire terrien. S'il était très riche, c'est que son métier, forcément, le rendait très riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait réparation. La foi, je crois que le Seigneur Jésus est le Messie et les œuvres. Si je crois que le Seigneur Jésus est le Messie, alors je dois réparer. Si le Saint-Esprit, bien sûr, m'indique de le faire, ma foi ne doit pas rester vaine. Dans Acte 2, vous connaissez l'histoire de mes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? J'aurais plein de choses à dire, j'en ai dit à peine la moitié, mais bon. Je finirai par Ésaïe. Je vais dire, attendez. On peut finir par dimanche prochain parce que j'aurai encore plein de choses à dire, en fait. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la conversion? Qu'est-ce qui vous est arrivé le jour où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, pour ceux qui l'ont fait? Demandez pardon pour vos péchés. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vous dans la nouvelle naissance? Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est quoi? On peut lire dans Ézéchiel 36. Au verset 26, ou même 25, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » C'est un peu comme ça que je suis passé, moi. C'est-à-dire quand j'avais des souillures, j'avais des idoles, j'avais du péché. Et je me suis trouvé purifié, enfin, je me suis senti propre. Après la conviction de péché où je m'étais senti sale, par le sang de Jésus, je me suis senti propre. Mais pas que ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est quoi? C'est la repentance. C'est ce que disait Corinne, c'est vraiment une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire de l'insensibilité aux choses spirituelles, vous allez devenir sensible. non seulement aux choses spirituelles, mais aux gens qui vous entourent. Je mettrai mon esprit en vous. On a parlé du Saint-Esprit qui vous convainc. Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Voilà le processus. Le processus vient de Dieu. Un Thessaloniciens 5, je vais conclure par ces deux passages-là parce que c'est les plus importants. Un Thessaloniciens 5. Au verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de tout du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, de tout votre être, esprit, âme et corps. Soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Je ne veux pas mettre un fardeau sur vos vies. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons le faire. C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui vous a appelé. Moi, je ne le cherchais pas. Hein. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est pareil, hein, Zachée, il voulait voir Jésus. Mais c'est Jésus qui lui a dit, je veux manger avec toi ce soir, chez toi. C'est Dieu qui nous a appelés. Le cœur vivement touché de Lydie. Quelqu'un aurait pu, peut-être que dans, parmi ces femmes qui étaient avec Paul, seule Lydie a eu le cœur vivement touché. Les autres, ils ont entendu la même chose, puisqu'ils étaient ensemble. On ne parle que de Lydie, on ne sait pas, il y avait plein de femmes. C'est Dieu qui nous mène à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. C'est une œuvre de Dieu. La foi est une œuvre de Dieu. La sanctification est une œuvre de Dieu. La seule chose que nous devons faire, nous, c'est d'écouter Dieu. C'est d'écouter et de travailler avec lui. Pas contre lui, de travailler avec lui. C'est pour ça qu'il est marqué, n'éteignez pas l'esprit. Si le Saint-Esprit vous montre quelque chose aujourd'hui, faites-le. S'il vous demande quelque chose à réparer, réparez. S'il vous demande quelque chose de fou à faire, du style quitter son pays ou alors obéissez. Nous devons travailler avec Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez avec votre salut. C'est tout ce que nous devons faire. Par contre, le salut, les œuvres, la sanctification, la rédemption, elle est en Christ. Et on peut le lire dans 1 Corinthiens 1. Mettez en œuvre votre salut. C'est le passage que je n'ai pas du tout eu le temps de partager. Mais méditez-le pour si on en reparle la semaine prochaine. Ah. Comment ? Ouais. Le salut est en trois phases. Là, ça y est, la joie est déjà. Le salut, il est en trois phases. justification en Jésus-Christ. Une fois pour toutes, sachez que vos péchés anciens, actuels et à venir, si vous en avez, sont pardonnés par le sang du Messie sur la croix. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui marchent, il y a une condition, vous n'oubliez pas, on en reparlera la semaine prochaine. La deuxième phase, c'est quoi ? Pensez que le fait d'être en Jésus-Christ, ça y est, c'est bon. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors vous pouvez être sauvé, mais si vous ne voyez pas Dieu, ça ne sert pas grand-chose. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et la troisième phase, on la connaît moins celle-là. Moi non plus, je ne la connais pas. Parce qu'elle n'est pas encore arrivée. La résurrection. La résurrection de nos corps et la résurrection de notre être entier. Il est parlé là tout à l'heure que Dieu vous gardera esprit, âme et corps. Ne pensez pas que votre corps, qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, n'a aucune part. Dieu ressuscitera à son avènement notre corps. Alors, bien sûr, ce sera pas, il y aura un changement. On sera de corruptible, on sera incorruptible. D'handicapé, on sera en pleine forme. Mais ce sera quand même une partie de notre corps. Jésus, quand il est ressuscité, on le reconnaissait quand même. On pouvait même mettre les mains sur son côté ou dans les trous de ses blessures. Donc c'était bien son corps terrestre. Il y a un mystère là-dedans. La résurrection, on en reparlera. Et donc dans 1 Corinthiens 1:30, c'est là-dessus que je vais finir. Or, c'est par lui, en Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse, mais aussi justice, mais aussi sanctification et rédemption. Tout est en Jésus-Christ, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur et non pas en lui, non pas par nos propres œuvres. Mais notre foi doit être active et non pas passive. Amen. On continuera parce que j'ai juste effleuré le sujet là. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Merci pour cette parole, Seigneur, qui descend dans nos cœurs, que ça ne soit pas quelque chose que nous oublions, qui est juste au niveau de la tête. Mais que cette parole puisse porter du fruit, Seigneur. Il est dit que ta parole ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Et ce que je souhaite, c'est que pour chacun d'entre nous, elle ne revienne pas à toi sans effet et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vraiment une lampe sur notre sentier, Seigneur. Te rendons grâce parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Et ce n'est pas un petit salut que tu nous as donné, Seigneur. C'est une feuille de route, une feuille où tu t'es engagé envers nous, Seigneur. Et nous, en contrepartie, nous devons aussi nous engager envers toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.